Ça, je l'ai mis en route, mais je n'ai pas appuyé. Ça y est, c'est fait. Donc, je vous disais que nous poursuivons notre cheminement à partir de cheminement sur la manifestation, les manifestations de Dieu à partir de sa révélation, et qu'aujourd'hui, on va aborder le témoignage de la révélation de Dieu dans les Écritures. Voilà. Parce que donc dans l'Ancien Testament, nous avons vu que Dieu a parlé, et puis dans le Nouveau Testament, Dieu s'est fait homme. Donc le Verbe s'est fait chair, comme nous dit saint Jean dans son prologue, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Donc nous allons commencer par notre premier point, le point 1 que vous devez avoir sur votre plan, la révélation dans l'Ancien Testament. Et donc, particulièrement dans l'histoire d'Israël. Dieu se révèle dans l'histoire d'Israël. Donc, la révélation est effectivement témoignée par un peuple qui est le premier ayant fait l'expérience de la rencontre avec Dieu. Et avec Dieu qui lui parle. Nous avons vu ça la dernière fois. Et donc ce peuple est devenu le peuple d'Israël. Et toute l'histoire de ce peuple est portée encore aujourd'hui par les Juifs à travers la Torah, parce qu'ils n'ont plus de temple, il leur reste une terre, mais ils n'ont plus de temple. Donc en fait, il y a deux dimensions que nous devons retenir. La première, c'est l'élection. Dieu a choisi un peuple. D'abord, il a choisi des hommes qui sont pris au milieu du peuple. Et puis la deuxième dimension, c'est la réception. Comment recevoir la parole de Dieu qui se manifeste? Donc on pourrait dire que Dieu est l'initiateur, enfin non pas on pourrait dire, on dit Dieu est l'initiateur de la création, est l'initiateur de son auto-manifestation, donc il se manifeste de lui-même, il est donc l'émetteur. Et s'il y a un émetteur, il faut un destinataire. Un destinataire qui accueille sa parole et qui reçoive sa manifestation. Cela signifie que l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament n'est pas que l'histoire d'un témoignage. Parce que l'Ancien Testament atteste que Dieu s'est révélé et que c'est un fait historique, on pourrait dire historiquement identifiable. C'est pas juste une légende, une histoire que les générations se sont racontées. C'est un fait historiquement identifiable. Parce que Dieu s'est adressé à des hommes particuliers qu'il a choisi au milieu de son peuple, et donc ces hommes sont connus du peuple. C'est dans ce sens-là que ce sont des faits, un fait identifiable. Ils sont identifiés eux-mêmes dans l'histoire d'Israël, même si on prenait l'histoire d'Israël indépendamment de la révélation. Il y a des rois, il y a des villes, il y a des cités, il y a des organisations politiques, sociales, culturelles. Et donc ces hommes sont connus, donc ils font partie de l'histoire. Donc les hommes sont également identifiables dans cette histoire. Seulement les paroles qu'ils ont reçues de Dieu ont été intégrées dans une tradition, qui est une tradition orale. une tradition orale qui est profondément ancrée dans la tradition de ces peuples. Donc, la mise à l'écrit de l'histoire, c'est un passage fondamental. Parce que dès l'instant où c'est mis par écrit, c'est pas simplement pour témoigner de génération en génération, mais c'est aussi dans le but de fixer l'histoire. Et donc, on va parler de révélation prophétique, puisque cette histoire fixée généralement après relecture des événements sera fixée par les prophètes, en tout cas par certains, et on parlera de révélation prophétique. Donc c'est notre point suivant, le point 1.2, la révélation prophétique. Alors il faut toujours se situer le contexte et le milieu dans lequel s'est manifesté Dieu, en tout cas le milieu dans lequel il s'est révélé. On est donc dans un milieu oriental, on en a un petit peu dit quelque chose la fois dernière, et donc dans ce milieu oriental, eh bien, ce milieu est particulièrement attaché aux présages, aux divinations, aux songes et à leur interprétation. Et donc, il y a un attachement à la fois culturel et on pourrait même dire cultuel aux présages de toutes sortes. Tout est interprété. Donc cela montre que les hommes, même dans les temps les plus reculés, ont mis en œuvre une dimension qu'on pourrait dire spirituelle en tout cas, qui les met en lien avec un absolu. Alors bon, ça peut être Dieu, ça peut être des divinités, mais en tout cas un absolu qui n'est pas l'absolu humain, qui est l'absolu du divin. Et donc, ces présages... Alors, je ne sais pas comment ça se fait, ça tremble, mais bon, je ne sais pas si c'est l'enceinte qui tremble. Voilà. Et donc, ces présages, ces songes, sont interprétés, et l'interprétation de ces songes va pouvoir permettre au peuple d'identifier les vrais des faux prophètes. Ainsi, il va y avoir ceux qui vont recourir aux présages, et il va y avoir ceux qui vont écouter et recevoir la parole de Dieu. Donc vous voyez bien que la parole de Dieu, quand elle est reçue, va déjà poser une différence de statut entre les vrais et les faux prophètes. Alors on peut lire le texte 1 du Deutéronome 18, versets 9 à 13. Voilà ce qu'on peut lire. « Quand tu seras arrivé dans le pays que ton Seigneur, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à agir à la manière abominable de ces nations-là. Il ne se trouvera chez toi personne pour faire passer par le feu son fils ou sa fille, interroger les oracles, pratiquer l'incantation, la magie, les enchantements et les charmes, recourir à la divination ou consulter les morts. » Divinisation. On peut retrouver ça dans le texte 2, Deutéronome, toujours 18, chapitre 18, versets 18-19, où on peut lire: c'est un prophète comme toi que je leur susciterai du milieu de leurs frères. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles que le prophète aura dites en mon nom, alors moi-même, je lui en demanderai compte. Donc on voit bien sur ces deux textes qu'il y a une différence d'identification entre les vrais prophètes. Le vrai prophète dit des paroles qu'il a reçues du Seigneur lui-même. Et d'ailleurs, ce qu'il dit, il le dit au nom du Seigneur et non pas en son propre nom. Et s'il fait l'inverse de cela, eh bien Dieu lui-même lui en demandera compte, alors que les faux prophètes, eh bien, sont capables de recourir au sacrifice, ne pas passer par le feu son fils ou sa fille, interroge les oracles, pratique l'incantation, la magie, etc. Donc on voit bien qu'il y a une différence de statut et même de fonction, puisque la mission que les vrais prophètes ont reçue n'est pas du tout de la même nature que les présages auxquels se livrent les faux prophètes. Et donc on a vu la dernière fois que l'expérience de la révélation qui se fait auprès de ces hommes, elle se traduit par des visions, on l'a vu avec Abraham et Moïse, ou par de l'audition. Ils entendent, ils voient. Le texte 3, dans le livre des Nombres, il dit « Écoutez donc mes paroles, s'il y a parmi vous un prophète, c'est par une vision que moi, le Seigneur, je me fais connaître à lui. » C'est dans un songe que je lui parle. Alors vous allez me dire, ben là il est en train de dire justement que c'est dans un songe qu'il va se manifester. Seulement, on voit bien que là, c'est comme si le Seigneur annonçait déjà de quelle manière il va se révéler. Ça veut dire que la parole de Dieu va précéder le songe. Donc on peut en conclure que la parole de Dieu va permettre de différencier le bon, enfin le vrai, du faux prophète, en cela même que la parole de Dieu s'adresse à lui en même temps que l'on songe ou après le songe. Vous voyez ? Donc la parole de Dieu, ça va être la clé d'interprétation du songe. Si le songe se produit sans la parole de Dieu, alors ce n'est pas un vrai prophète. Dieu ne lui a pas parlé. Donc on voit bien que dans le verset des Nombres, c'est comme si Dieu dit à l'avance comment il va se manifester. Il donne même des indications. Donc là, on va parler de manifestations sensibles. C'est-à-dire que Dieu va se manifester à partir du sens de l'ouïe ou du sens de la vision. Mais vous voyez bien que l'ouïe ou la vision ne peuvent pas être à elles seules les clés de la manifestation ou de la révélation s'il n'y a pas la parole qui est associée. Alors, on arrive à notre point 1.3. Dieu se révèle à son peuple. Donc on pourrait dire que, en se révélant à son peuple par l'intermédiaire de prophètes et de vrais prophètes, Dieu ne donne pas à sa révélation un caractère confidentiel. Mais au contraire, il va donner à la révélation un caractère historique. Donc la dimension historique, identifiable, réalisable de la révélation a un caractère qui est un caractère, j'allais dire, universel, en tout cas pour l'instant à un peuple, mais jamais quelque chose de confidentiel. Dieu ne s'adresse pas au prophète Élie parce que c'est Élie. Il s'adresse à lui parce que Élie va pouvoir transmettre le message au peuple ou au roi. Voilà ce qu'on peut lire dans le texte de l'Exode. Le Seigneur, en ces jours-là, sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit l'Égypte morte sur le rivage de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et en Moïse, son serviteur. Donc ce qui va marquer l'histoire du peuple d'Israël, ce sera le salut. Eh bien Dieu enfin le Seigneur, puisqu'on est dans l'Ancien Testament, le Seigneur a agi efficacement pour sauver le peuple. Et donc cela marque l'histoire, à la fois l'histoire de ce peuple dans sa dimension spirituelle, cultuelle, puisque ça mettra en œuvre un culte, mais ça marque aussi l'histoire en tant qu'histoire de ce peuple, indépendamment de la dimension religieuse, on pourrait dire. Donc si on voulait résumer cela, on dirait que les paroles et les faits, ou plus exactement les faits, vont donner du crédit aux paroles. Donc j'avais placé les paroles en premier, parce que Dieu s'adresse au peuple, mais on voit bien que les faits qui se produisent après les paroles vont rendre crédibles les faits. Les faits en tant qu'événement, les faits F-A-I-T-S, c'est ça votre question ? Les faits vont rendre crédibles les paroles, on pourrait dire, et vice-versa, ah oui, j'ai peut-être dit, pardon, et on pourrait presque dire vice-versa en fait. C'est-à-dire les faits vont montrer que les paroles sont vraies et efficaces, et les paroles sont vraies et efficaces parce qu'elles ont eu une action réelle, identifiable dans la réalité. Et donc ces faits vont être dans l'histoire d'Israël des faits qui vont réaliser le dessein de Dieu. Ça réalise le projet que Dieu a pour son peuple. Le projet qu'il a, c'est de sauver les hommes et de sauver son peuple. Et on a vu la dernière fois que ce projet a commencé par une promesse. Donc la foi du peuple hébreu, elle naît de la parole et elle naît de l'action du Seigneur. C'est parce que le Seigneur, en ces jours-là, nous dit Exode 14:30, sauva Israël de la main d'Égypte et qu'Israël a vu l'Égypte morte sur le rivage, qu'Israël a vu de quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Donc le peuple craignit le Seigneur, mais du coup, le peuple mit sa foi dans le Seigneur. Donc la foi du peuple, elle naît de l'action réelle que le Seigneur met en œuvre pour le sauver. Et là, de le sauver de manière historique de la main du Pharaon, de l'esclavage, le libérer de l'esclavage. Donc on pourrait aussi voir que la manifestation du Seigneur et les moyens qu'il met en œuvre pour se faire connaître et pour se manifester vont mettre en route et vont faire naître la foi. Alors on pourrait se demander, est-ce que la foi du peuple hébreu est du même ordre que la foi d'Abraham qu'on a vu la dernière fois, où là Abraham était mis à l'épreuve, alors que là le peuple a été mis à l'épreuve de l'esclavage en Égypte, mais est libéré par le Seigneur. Donc on voit bien que là, ce qui fait naître la foi dans le peuple hébreu n'est pas de la même nature que celle d'Abraham. Et pourtant, il y a un même dénominateur commun pour les deux, qui est le salut. La main du Seigneur, la main de l'ange, arrête le bras d'Abraham qui allait tuer son fils. Et là, le Seigneur, par une main puissante, nous dit le livre de l'Exode, a libéré le peuple. Donc on est dans les deux cas, dans une libération et dans une action de salut, une action de sauver. Donc le peuple, dans la foi qui les anime, qui les habite maintenant, eh bien, ils ont conscience que ce Dieu qui s'adresse à lui, eh bien, ce Dieu est un Dieu qui agit en sa faveur. Et que l'action du Seigneur n'est pas le fruit du hasard. Il n'y a rien d'accidentel en le Seigneur ou en Dieu. Et que c'est sa volonté de sauver les hommes et c'est sa volonté d'entrer dans l'histoire des hommes. Donc si on voulait retenir en une phrase, on dirait que le projet de Dieu a commencé par une promesse, et cette promesse, avec le peuple hébreu, a fondé une alliance. C'est pour ça qu'au début, je vous parlais du Dieu créateur qui est le Seigneur et l'émetteur, mais il faut un récepteur. Il faut que le peuple, ou que celui qui pressent la foi qu'il peut avoir en Dieu, reçoive cette foi et la mettre en œuvre, en tout cas la déploie dans une histoire et dans tout un peuple. Parce que la foi, elle ne doit pas rester intime et enfermée. Et donc l'alliance est précisément, c'est l'alliance de tout un peuple, ce n'est pas l'alliance confidentielle d'un homme prophète avec le Seigneur. C'est l'alliance de tout un peuple. Et donc on va voir maintenant dans le point 1.4 la nature du projet de Dieu. Donc je redis, je répète souvent, donc là je redis, c'est une parole qui est une promesse qui est mise en action depuis les prophètes, jusqu'à la figure du serviteur souffrant, souvenez-vous, Isaïe 53, ça veut dire qu'on peut y voir, nous, enfin dans la lecture chrétienne des correspondances, mais on voit bien qu'il y a dans l'histoire du salut une volonté de Dieu. C'est-à-dire une volonté qui est que ce que Dieu veut, c'est précisément sauver l'homme, sauver les hommes, mais en tout cas l'homme avec un grand H, sauver l'humanité, on pourrait dire. Pourquoi veut-il sauver ? Eh bien parce qu'il est amour. C'est-à-dire que dans l'équation, on ne doit pas oublier l'amour du Seigneur. C'est pas juste se manifester, montrer qui il est, s'identifier même, Exode 3.14, je suis qui je suis, mais il y a derrière cette volonté une initiative qui est portée par un amour avec un grand A, on pourrait dire, un amour que même humainement et analogiquement, on approcherait difficilement. Et puis on découvre son identité précisément. Le « je suis qui je suis » est une manière pour le Seigneur de livrer son identité. Et quand je vous parlais d'un émetteur et d'un récepteur, dès l'instant où je dis « je », c'est que je m'adresse à un « tu » que je reconnais. Donc il y a en Dieu la volonté de se faire connaître à quelqu'un ou de se faire connaître à un peuple. Ça va pour vous, cette dimension-là ? Donc, l'identité, on avait parlé de dévoilement la fois dernière. Mais bien sûr, c'est un dévoilement qui est relatif, parce que le Seigneur ne dévoile pas totalement qui il est. Donc les prophètes vont découvrir qui est le Seigneur à partir de ses paroles et de ses actes. Et donc par analogie, il va y avoir une construction de figures. La figure du serviteur souffrant, la figure prophétique, qui va signifier que Dieu peut être en relation avec l'homme dans l'Ancien Testament, et que dans le Nouveau Testament, il est en relation de manière inédite avec l'homme. Donc toute l'expérience du peuple de Dieu, que le peuple fait de la révélation, est une expérience fondamentale, fondatrice. Et vous voyez bien que ce peuple-là, il ne se comprend pas en dehors de la révélation que Dieu fait. Il y a un lien très fort entre Dieu et le peuple, entre le Seigneur et le peuple. Le peuple ne se comprend plus comme un peuple nomade, seul dans le désert. Il se comprend comme appartenant à Dieu et appartenant au Seigneur. Ce peuple élu est particulier. Et donc, cette figure prophétique ou ces figures prophétiques et la connaissance et la reconnaissance de Dieu par le peuple vont ouvrir à une connaissance par anticipation. C'est-à-dire que par anticipation, eh bien, on va avoir une ouverture vers le Nouveau Testament. C'est pour ça qu'on ne peut pas lire le Nouveau Testament sans lire l'Ancien parallèlement. Voilà, et on ne peut pas comprendre le Nouveau Testament sans lire l'Ancien. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, il y a déjà une compréhension anticipée du Nouveau Testament, quelque chose qui est anticipé. La promesse de l'Ancien Testament, comprise, inscrite dans l'Ancien Testament, elle s'accomplit dans le Nouveau Testament. Donc, vous souvenez, la dernière fois, je vous ai dit, on ne peut pas séparer les deux. Paul Beauchamp, il parle de... C'est la reliure du livre qui relie les deux, mais c'est une jonction matérielle, alors qu'on voit bien qu'il y a une jonction plus transcendantale, plus d'une transcendance entre les deux, qui est la révélation de Dieu. Donc c'est pourquoi aujourd'hui on doit prendre en grande considération l'Ancien Testament. Voilà, parce que l'Ancien Testament atteste le premier de la révélation du Seigneur, de la révélation de Dieu. Et que si elle était voilée dans l'Ancien Testament, eh bien elle se trouve par l'incarnation et avec l'incarnation du Verbe, un peu dévoilée tout de même par la présence de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc on pourrait dire, et là c'est un clin d'œil au voile qui se déchire lors de la mort de Jésus, lorsqu'il remet son esprit dans les mains du Père, on peut lire chez Matthieu que le voile se déchire, et bien de la même façon on pourrait dire que l'incarnation du Fils dans l'Ancien Testament vient révéler le Père et que Jésus-Christ en lui-même vient aussi déchirer le voile. Ce voilement dans l'Ancien Testament vient, par sa personne, être un peu déchiré. Ça va, je parle pas trop vite, vous arrivez un petit peu. Ah oui, c'est dense. C'est vrai, trop vite, oui. C'est ça. Oui, un lien entre le voilement et le dévoilement. Bon, ben vous laissez ça, c'est pas grave, c'est pas important. Enfin, c'est important, mais ça faut le remettre à sa place, ça a l'importance que ça, mais ce n'est important que si vous l'avez compris. Voilà, si vous l'avez pas compris, vous embêtez pas. C'est pas... Non, mais c'est vrai, hein. Alors, après vous avez les textes que je vous mets, que vous pouvez relire, parce que souvent j'espère qu'ils sont éclairants pour vous théologiquement aussi, ou pour comprendre. C'est par exemple le texte de la Constitution dogmatique Vatican II, donc Dei Verbum, la révélation de Dieu, remet un peu, c'est une manière de redire les choses peut-être un peu mieux sûrement. Voilà ce qu'on lit dans ce texte là dans ce passage, donc c'est le chapitre 4, le paragraphe 15, pardon. L'économie, donc là vous êtes déjà un peu familier avec ce terme-là, l'économie de l'Ancien Testament avait pour raison d'être majeure de préparer l'avènement du Christ Seigneur de tous, du Christ Sauveur de tous, et de son royaume messianique, d'annoncer prophétiquement cet avènement et de le signifier par diverses figures. Compte tenu de la situation humaine qui précède le salut instauré par le Christ, les livres de l'Ancien Testament permettent à tous de connaître qui est Dieu et qui est l'homme, non moins que la manière dont Dieu, dans sa justice et sa miséricorde, agit envers les hommes. Ces livres, bien qu'ils contiennent de l'imparfait et du caduc, sont pourtant les témoins d'une véritable pédagogie divine. C'est pourquoi les fidèles du Christ doivent les accepter avec vénération. En eux s'exprime un vif sens de Dieu. En eux se trouvent de sublimes enseignements sur Dieu, une sagesse salutaire au sujet de la vie humaine, d'admirables trésors de prière. En eux, enfin, se tient caché le mystère de notre salut. Donc vous voyez ce texte de la Constitution dogmatique, à part une ou deux articulations de phrases un peu compliquées, nous dit bien, déjà, l'Ancien Testament avait pour raison d'être majeure de préparer l'avènement du Christ sauveur de tous. Donc le fait qu'il y ait l'idée que le Nouveau Testament soit déjà anticipé dans l'Ancien Testament nous permet de considérer l'Ancien Testament comme étant fondamental, même si l'Ancien Testament concerne l'histoire d'un peuple qui est le peuple d'Israël. Et ce lien avec l'Ancien Testament est nécessaire pour nous, parce qu'il en va de l'identité même du christianisme. C'est de notre identité chrétienne que de découvrir et de prendre en grande considération l'Ancien Testament. Cela agit pour la compréhension de la venue de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Et de comprendre qu'il y a une révélation, que l'histoire de la révélation, elle n'a pas commencé avec Jésus-Christ, elle a commencé dans l'Ancien Testament. Donc cela nous dit que l'histoire du salut est unique. Il n'y a pas deux histoires, il n'y a pas deux révélations. Il y a une histoire du salut et que cette histoire est unique. D'où l'importance du lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, je vous laisse écrire un peu. On ne doit pas dissocier les deux livres. Comme je vous le disais, la lecture de l'un aide à la compréhension de l'autre et vice-versa. Qu'il n'y a pas deux histoires, il n'y a pas deux économies. Qu'il y a au contraire une unité. Il y a une unité parce qu'il n'y a qu'un seul inspirateur. Il n'y a qu'un seul Seigneur, le Seigneur de tous. Il y a ainsi un mouvement d'aller et de retour entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, ne nous contentons pas uniquement à l'Ancien Testament et même prenons en grande considération les psaumes, par exemple. J'ai parfois entendu des paroissiens dire « Oh, les psaumes, pourquoi disons-nous les psaumes ?» ou tel sexe de l'Ancien Testament. Non, on est là dans une même révélation, comment les hommes ont mis aussi par écrit dans les psaumes, de manière poétique et non pas de manière narrative, ont mis de manière poétique l'action de Dieu et continue de témoigner, témoigne dans ce genre littéraire de la manière dont Dieu se révèle et dont Dieu les sauve. Donc on est face à une histoire d'élection et à une histoire d'identité. Et donc élection et identité, on en parle pour le peuple hébreu et le peuple juif. Et on voit bien comment cette élection et cette identité, elle agit aussi pour l'identité chrétienne, puisqu'on ne dissocie pas. Alors, si on parle de l'incarnation du Fils dans le Nouveau Testament, alors, à partir de l'incarnation, on doit pouvoir comprendre que la révélation est trinitaire. Ça va ? La révélation... Eh bien, parlera... ben, parce que vous allez voir. Alors, pause avec les questions. Avec le point 2, le Nouveau Testament, donc on est là vraiment sur la partie du Nouveau Testament, en Jésus-Christ, Dieu se révèle. Donc encore une fois, on n'est pas sur une révélation qui serait une deuxième révélation. On est sur la même révélation. Sauf que là, Dieu va parler en son Fils. Par son Fils. Alors, comme il est toujours bon de se référer aux Écritures, on va le texte 6, donc dans le Hébreu, chapitre 1, verset 1, où on peut lire dans ce verset déjà quelque chose qui a à voir avec une économie. Après avoir à maintes reprises et sous maintes formes parlé au Père par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par un Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Donc, lorsque Jésus parle de Dieu, il parle de son Père et il ne parle pas d'un autre que Dieu. Il ne parle pas d'un Dieu qui serait un autre Dieu que celui du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament. Il s'agit du même Dieu. Alors, toujours la constitution dogmatique, parce que ces textes-là nous aident à mieux comprendre. Voilà ce que nous dit le chapitre 5 et le paragraphe 17. La parole de Dieu, qui est une force divine pour le salut de tout croyant, se présente dans les écrits du Nouveau Testament et sa puissance s'y manifeste de façon singulière. Dès que fut venue, en effet, la plénitude des temps, le Verbe de Dieu s'est fait chair et il habitait parmi nous, plein de grâce et de vérité. Le Christ a instauré le règne de Dieu sur terre. Par ses gestes et ses paroles, il a révélé et son Père et lui-même. Par sa mort, sa résurrection, son ascension glorieuse et par l'envoi de l'Esprit Saint, il a parachevé son œuvre. Élevé de terre, il attire à lui tous les hommes, lui qui seul possède les paroles de la vie éternelle. Mais ce mystère n'a pas été dévoilé aux autres générations comme il l'a été désormais dans l'Esprit Saint à ses saints apôtres et prophètes afin qu'ils proclament l'Évangile, qu'ils suscitent la foi en Jésus, Christ est Sauveur, Christ est Seigneur. Oui, je fais le... Mais en même temps, c'est un peu la même chose, hein. Mais vous avez raison, Christ est Seigneur et qu'il rassemble son Église. De ces réalités, les écrits du Nouveau Testament présentent un témoignage permanent et divin. Alors, que nous dit ce paragraphe 17 ? Il nous dit d'abord que la parole de Dieu est première. Et même qu'elle est une force divine. Et donc, si elle est première et si elle est une force divine, alors c'est une parole qui est différente de celle des hommes. Ce paragraphe nous dit aussi que la force de la parole de Dieu se manifeste de manière singulière, c'est-à-dire par l'incarnation du Verbe. Il nous dit aussi que le Christ instaure le règne de Dieu sur terre. Et il nous dit même comment il le fait. Comment il instaure le règne de Dieu sur terre ? Eh bien, par ses paroles, par ses gestes, par son enseignement, par sa mort et sa résurrection, par l'envoi de l'Esprit, ce qui parachève, l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Père et du Fils, par la force de l'Esprit. Donc on est bien là dans une articulation trinitaire, le Père par le Fils dans l'Esprit. Ensuite, ce texte nous parle de l'Église. L'Église est fondée par les apôtres. Du coup, c'est sur eux que repose la fondation de l'Église. C'est sur eux que repose la proclamation de l'Évangile. Et c'est sur eux que repose le témoignage. Et quand ils mettent ce témoignage par écrit, eh bien c'est un témoignage qui est permanent et qui est divin. Et puis ce texte-là nous montre aussi la fonction qui est celle du Fils et la fonction qui devient celle des apôtres. Parce que le Fils instaure, en relevant juste les verbes d'action, il instaure le règne de Dieu, il révèle son Père et lui-même, il envoie l'Esprit et il parachève l'œuvre de Dieu. Et puis la mission des apôtres, eux, ils ont la mission de proclamer l'Évangile, de susciter la foi en Jésus, de rassembler l'Église. Donc ces deux groupes de verbes montrent comment la mission et la mission divine se répartit. Mais c'est une mission qui est reçue du Père.
Oui. Vous insistez sur apôtre, mais c'est apôtre et prophète. Et moi, de lire prophète à cet endroit,
oui.
ça me gêne, en fait. Pour moi, les prophètes, après Jésus-Christ, les apôtres, il n'y a plus de prophète.
Alors, le dernier prophète, c'est Jean-Baptiste. Donc, en fait, le fait qu'il y ait prophète là, ça se justifie. Parce que le dernier prophète, c'est précisément Jean-Baptiste.
D'accord.
Voilà.
Qui est mort au moment de l'ascension, quand même, Jean-Baptiste.
Ah, Jean-Baptiste, il est mort bien plus tôt. Ben, oui, Jean-Baptiste, oui. il est mort Jésus-Christ, avant Jésus-Christ.
Oui, donc là.
Oui, mais Jean-Baptiste est venu annoncer le Christ. Jean-Baptiste est celui qui a baptisé Jésus. À partir de ce baptême, Jésus a commencé son enseignement, a commencé sa vie publique.
Donc là, prophète au pluriel, et vous me dites, c'est référence à Jean-Baptiste.
Mais parce que Jean-Baptiste fait partie des prophètes, en fait, on peut l'associer aux prophètes, on ne va pas le séparer des autres, en fait.
Il y avait aussi la Bible.
Vous voyez le risque, on a ce risque-là, c'est qu'en fait, c'est comme si on voulait séparer à chaque fois. On veut séparer, mais non. Dites-moi. Alors, je reprends un petit peu tout ça. Donc, on voit bien qu'il s'agit toujours de la même mission, de la même révélation, mais d'une mission qui se poursuit maintenant par les apôtres. On peut noter aussi que Jésus n'a jamais laissé autre chose que ses paroles et son enseignement. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas laissé d'écrit, Jésus. La seule fois où peut-être il écrit, il trace quelque chose, voilà. Mais c'est tout. Là, on a rien, il n'a pas laissé d'écrit. Et on voit bien que la mise à l'écrit fait partie de la mission des apôtres. Ça leur reviendra au moment opportun, au moment promis, propice pour eux. Et c'est comme les écrits de l'Ancien Testament. Ce seront des écrits qui se feront parce que l'événement Jésus-Christ aura été relu. C'est rétrospectivement que l'on va relire et donc comprendre ce qui s'est passé, comprendre l'événement. Donc le Nouveau Testament va témoigner de l'achèvement de la révélation en Jésus-Christ, mais qui était commencée dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi l'un et l'autre ne peuvent pas être séparés. Donc les deux événements que constituent, ça c'est notre point 2.1, une révélation à la personne de Jésus, les deux événements que constituent l'incarnation puis la mort et la résurrection de Jésus vont révéler le contenu de la promesse. Parce que la promesse, c'était la promesse, donc la terre promise, et la terre promise représentait le salut pour le peuple, parce qu'ils avaient une terre dont ils étaient sauvés, ils n'étaient plus esclaves, mais c'est aussi l'accomplissement du salut pour tous, du salut total. C'est une promesse de salut, c'est pas simplement la terre qui les sauve, mais c'est le salut pour tous qui va s'accomplir en la personne de Jésus-Christ. Donc on voit bien que ces deux événements, ils ont une empreinte dans l'histoire. Et même dans notre histoire, nous sommes en 2023 et nous comptons 2023 à partir de l'an zéro, de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc le personnage Jésus-Christ, il a marqué l'histoire. Après, ça se sépare avec l'histoire de la foi. Mais il n'empêche que c'est inscrit dans l'histoire et l'histoire identifiable. Donc Jésus enseigne. Et en enseignant, il va révéler et il va manifester la puissance du Père dans l'esprit qui leur est commun. Jésus parle avec autorité. Dieu guérit par la puissance de l'esprit qu'il met en œuvre, en guérissant les corps, en guérissant les esprits. Mais si Jésus enseigne, il est aussi capable de voiler son enseignement. Par exemple, il va parler en parabole. Alors bien sûr, il va utiliser des figures de style agraire pour que ça parle aux agriculteurs, mais n'empêche que ses paroles sont un peu voilées. Et puis parfois, il ponctuera par cette phrase encore plus obscure, « Entendent qui a des oreilles ». Voilà. Mais par moments aussi, il va expliquer la parabole à ses disciples. Il va se faire le pédagogue pour ses disciples. À la foule, il explique quelque chose, mais il va dire « À vous, je vous révèle ». Et là, il explique, il interprète la parabole. Donc les disciples ont cette position au milieu du peuple, d'être comme les prophètes, des élus. Jésus a choisi ceux avec qui il voulait cheminer. Il ne les a pas pris au hasard. Donc il y a bien là aussi l'idée d'une élection. Et il leur disait, « À vous, le mystère du règne de Dieu est donné, mais pour ceux du dehors, tout devient énigme. » Voilà, ça veut dire qu'il réserve à ses apôtres un enseignement parce que ces apôtres ont une mission, ils vont avoir une mission à mener. C'est-à-dire, ils doivent avoir une intelligence ouverte pour pouvoir entendre et voir la réalité des paroles que Jésus leur dit, pour pouvoir témoigner. Sinon, ils ne pourront pas témoigner de choses qu'ils n'ont pas comprises. Ce ne sera pas possible. Déjà, dans l'évangile de Marc, on voit bien Marc parle des disciples qu'ils ne comprennent rien. Jamais, personne ne... Voilà, chez Marc, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Les disciples, les apôtres ne comprennent pas. Donc ce sens caché, il est particulièrement présent dans les annonces de la Passion. Trois annonces successives, et pourtant, soit ils ne comprennent pas, soit il y a un refus. Dans Marc 4, chapitre 4, verset 22, on peut lire « rien de voilé qui ne doivent être dévoilés, et rien de caché qui ne doivent être connus ». Donc la volonté de cacher, c'est pas pour qu'il y ait du mystère, que ce soit mystérieux. C'est juste que il faut que le temps opportun, le temps propice, le kairos, comme on dit en grec, arrive et soit dévoilé. Mais pour vraiment comprendre, pour les apôtres, le sens caché des paroles de Jésus, et peut-être même le sens caché de ces miracles, parce qu'ils ne voyaient que la guérison des corps et des esprits, ils ne voyaient pas que c'était les signes, et c'est Jean, l'évangéliste Jean, qui en parlera le mieux, que c'était des signes de la présence du royaume de Dieu sur terre. Eh bien, les disciples devront relire l'événement Jésus-Christ dans son entier pour réaliser ce qu'ils savaient déjà mais qu'ils n'avaient pas mis en mots, à savoir que Jésus était vraiment le Fils de Dieu, même s'il y a la confession de Pierre, mais qu'il était de double nature, de nature divine et de nature humaine. Il faut imaginer ce que cela peut être pour un juif de l'époque qui était Pierre, qui était Matthieu, comme ils étaient tous. Parce que la représentation, on l'a vu la dernière fois, la représentation qu'ils avaient de Dieu ne pouvait pas être un Dieu qui pouvait être de nature humaine et de nature divine. C'était impensable. Mais vous voyez que cette révélation, elle ne, pour les disciples, elle ne peut se faire que par degrés, que par paliers, nous dit le théologien Hans-Urs von Balthasar. C'est par degrés qu'ils peuvent comprendre. Saint Paul le dit très bien, un petit enfant, on va donner du lait, mais de la nourriture solide au plus grand. Eh bien, c'est pareil. Jésus va adapter son discours et son enseignement à l'auditoire qu'il a en face de lui. Et pour ses apôtres, c'est un auditoire particulier. C'est un auditoire qu'il a choisi parce que cet auditoire-là va avoir une fonction, une mission particulière après le retour vers son Père, après sa mort, sa résurrection, son ascension. Donc, on voit bien comment les choses se mettent en place, mais comment elles se mettent en place aussi dans l'esprit des apôtres. Tout doucement, tranquillement, ça se dévoile tranquillement. Donc les apôtres vont découvrir que sa manière singulière et si singulière de vivre par rapport aux autres hommes dit quelque chose de sa divinité, en plus de sa divinité. Que les miracles qu'il fait sont des signes et ne sont pas que des guérisons. Ce sont des signes. Que Jésus est capable de compassion. Il est capable de pleurer. Il est capable de s'émouvoir devant la foule qui n'a rien à manger. Alors, pour faire écho au « Je suis, qui je suis » d'Exode 3,14, je vous propose, vous devez avoir dans le texte 9, un ordonnancement que l'on appelle « ego eimi » en grec, qui est « Je suis ». Vous savez, dans l'évangile de Jean, « Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde. » « Je suis la porte des brebis, je suis le bon berger. » « Je suis la résurrection et la vie. » « Je suis le maître, je suis le chemin, la vérité et la vie. » « Je suis la vraie vigne et je suis la vigne. » Eh bien, dans cet ordonnancement, dont « ego eimi », »,« ego eimi », hein, le, comment, « ego hein, », vous connaissez bien tous ce mot, eh bien, on constate que, et vous voyez comment j'ai ordonnancé, tout, en reprenant tous les « je suis » qui se trouvent dans l'évangile de Jean, eh bien, on sort, au centre, nous avons « je suis la résurrection et la vie ». Et en inclusion, c'est-à-dire au début et à la fin, nous avons « je suis le pain de vie » et « je suis la vigne ». Donc là, on a un ordonnancement, en tout cas, une inclusion qui dit quelque chose de la pratique sacramentelle. Et bien voilà, tout à fait. Et qui dit déjà, qui est inscrit déjà dans le texte de Jean. On peut mettre en parallèle hein, la lumière avec la vraie vigne, la porte avec le chemin, le berger avec le maître. Les textes évangéliques, quand on les étudie en exégèse, ils nous disent souvent bien plus que ce que l'on lit. Quand on entre dans l'intelligence du texte par une méthode, eh bien, on découvre autre chose que, le plaquage de notre interprétation un peu directe sur les textes. Parce qu'il se trouve que les textes, on les connaît bien. Donc, comme on les connaît bien, eh bien, on va les interpréter tout de suite. Parfois, prendre un petit peu de distance, un petit peu de recul, permet de voir des choses que notre interprétation directe, eh bien, n'a pas pu ou ne peut pas découvrir dans l'immédiat. Alors, dans cet ordonnancement de ego eimi, je suis le pain, je suis la vérité, je suis le chemin, particulièrement je suis le chemin. On découvre là, même si ce n'est pas écrit de cette sorte-là, on découvre que Jésus est le médiateur. Si Jésus-Christ est le chemin vers le Père, alors nous ne pouvons pas aller vers le Père sans passer par Jésus-Christ lui-même. Et dans cet ordonnancement qui nous dit quelque chose de la dimension sacramentelle, du pain, du vin, qui est le faire-mémoire de sa mort et de sa résurrection, eh bien, on est vraiment là dans la médiation sacramentelle, la médiation du sacrement, que l'on reçoit par l'Église et dans l'Église, qui est elle-même médiation. Et aussi dans la communauté, c'est parce que nous sommes communauté, comme nous faisons communauté, en Église. Nous sommes ensemble sur ce chemin de médiation. Et la religion chrétienne est une religion de médiation. On ne va pas tout seul avec la force de ses petits bras vers Dieu le Père. Le texte de Jean chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Jésus ne montre pas autre chose que ce qu'il est en réalité, c'est-à-dire le Père, et il ne montre pas autre chose que ce qu'il a en lui, c'est-à-dire l'esprit commun du Père et du Fils. Et l'autorité qu'il a, il la tient de son Père. Et donc ce point 2-3 sur les miracles comme manifestation et présence du règne de Dieu, je vais aller plus vite parce que j'en ai déjà dit quelques mots. Ce sont des signes qui ont été interprétés comme par les prêtres du Sanhédrin et par les juifs de l'époque, qui ont été interprétés comme des blasphèmes par rapport à Dieu, parce qu'ils considéraient que ces miracles étaient des violations de la loi. Lorsque Jésus pardonne les péchés, les juifs ont une représentation du pardon des péchés qui n'est pas celle-ci, parce qu'ils ont une représentation de la justice de Dieu qui n'est pas une justice qui n'est pas celle-ci. Henri Bouillard, qui est un théologien qui est mort maintenant, qui était un professeur de théologie fondamentale à l'Institut catholique de Paris, qui est mort en 1981, il dit le miracle est au-dessus des lois, non pas en ce sens qu'il contredirait ou leur serait entièrement étranger, mais en ce sens qu'il les utilise. Vous voyez ? C'est-à-dire le miracle va correspondre à la loi dans le sens où il va mettre en œuvre une loi qui est d'abord une loi d'amour et de miséricorde. C'est dans ce sens que le miracle utilise la loi. Pas la loi pour la justice, la punition, mais la loi de miséricorde, la loi d'amour. Matthieu chapitre 4 verset 23, puis parcourant toute la Galilée, il enseignait dans leur synagogue, proclamait la bonne nouvelle du règne et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Vous voyez là aussi cette correspondance avec l'Ancien Testament. Il n'y a pas de parole de Jésus ou de geste de Jésus qui ne soit doublé d'une parole ou qui ne soit doublé d'un geste. La parole et le geste vont ensemble. C'est ce qui rend efficace le miracle. Ils entrèrent à Capharnaüm, dans le livre de Marc, au chapitre 1er, verset 23-27, c'est le texte 13. Aussitôt le jour de sabbat, Jésus se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu nous perdre ? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de Galilée. » Donc on voit bien que la manière dont Jésus enseigne est une manière tout à fait nouvelle, tout à fait inédite. Et bien entendu que ça déstabilise les prêtres de la synagogue, que ça déstabilise les juifs. Or, un jour qu'il était en train d'enseigner, Luc chapitre 5 verset 17, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi qui étaient venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Voilà des guérisons dont beaucoup étaient témoins. Donc des prêtres, des pharisiens et des docteurs de la loi qui auraient dû interpréter les signes de guérison comme étant autre chose que des guérisons, mais des signes de gestes d'œuvre de Dieu, de présence du règne de Dieu sur terre. Alors, il faut que je regarde un petit peu l'heure. Paul Beauchamp nous dit, on en a parlé un petit peu tout à l'heure et la fois dernière, il dit, « À noter que Jésus n'opère aucun miracle pour se protéger de la mort et que sur le plan de l'agir, il ne fait rien si ce n'est des miracles. Toutefois, les miracles des pains échappent à la série. Une foule en bénéficie qui pourrait donner à Jésus un pouvoir politique. » Ça, c'est intéressant. Parce qu'on voit bien que les miracles sont suscités de la part de Jésus par la compassion, bien entendu. Parce qu'il a, il a de la compassion pour ses contemporains, pour ceux qui souffrent. Mais que les miracles donnent à Jésus un pouvoir politique. Mais ce pouvoir politique, c'est un pouvoir qui va se retourner contre lui. Parce que quand Jésus nourrit les foules, ou guérit des foules entières, ou simplement par sa présence il réunit des foules, ça ne plaît pas du tout aux Romains. Cela crée du désordre, et le désordre est répréhensible pour les Romains. Donc ça veut dire que pour les Romains, le pouvoir que Jésus a lorsqu'il guérit est un pouvoir qui est assimilé par analogie à un pouvoir politique, donc un pouvoir contraire à la politique et même à la religion païenne des Romains. Donc vous voyez, les miracles sont des signes de miséricorde et en même temps ne servent pas Jésus. Mais que nous dit Paul Beauchamp ? Jésus, il n'a que faire, d'une certaine manière, il n'a que faire de sa propre personne, dans le sens où il n'a pas peur de se mettre dans des situations très compliquées pour lui vis-à-vis des Juifs et vis-à-vis des Romains. Il dit, il ne fait pas des miracles en faisant des miracles. Il ne ferait pas de miracles en se disant « je me protège de la mort ». Il n'agit pas comme ça. Sa manière d'agir est une manière qui ne répond pas aux critères purement humains. Jésus ne cherche pas à être populaire. Il l'est populaire, mais il ne cherche pas à l'être. Il ne fait pas des miracles pour être populaire. Il ne cherche pas à se sauver d'une mort prochaine. Et donc, les autorités religieuses ne voient pas la correspondance entre les guérisons, les miracles, et celles, parce qu'il y en a eu des guérisons et des résurrections dans l'Ancien Testament. Ils ne font pas le lien, on pourrait dire. Ils ne font pas le lien, par exemple, entre la multiplication des pains et la manne dans le désert. Ils ne font pas la correspondance. Donc, ils ne voient pas qu'il y a dans cette multiplication des pains une correspondance, c'est-à-dire une nourriture salutaire, c'est-à-dire une nourriture qui sauve, comme la manne a sauvé le peuple dans l'Ancien Testament. Jean chapitre 6 verset 31-33, il dit « Au désert nos pères ont mangé la manne, ainsi qu'il est écrit, il leur a donné à manger un pain qui vient du ciel, mais Jésus leur dit « en vérité, je vous l'ai dit, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le véritable pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Et Jésus est lui-même en sa personne, le Verbe incarné, venu de Dieu. Donc il y a une spécificité dans les miracles de Jésus, et on pourrait dire que les miracles sont des signes signifiants, c'est-à-dire qu'ils sont efficaces et qu'ils font ce qu'ils disent, ils sont performatifs. Et Bernard Cesbouet nous dit, parler de miracles à propos d'un événement extraordinaire, c'est faire un acte libre de foi. De foi qui lie dans la matérialité du fait, donc dans la réalité du fait qui se produit, et qui fait autre chose que le fait lui-même. C'est-à-dire un signe qui nous est adressé par Dieu. Je vais relire la phrase sans intervenir. Parler de miracle à propos d'un événement extraordinaire, c'est faire un acte libre de foi qui lie dans la matérialité du fait autre chose que le fait, c'est-à-dire un fait qui nous est adressé par Dieu. Alors moi, je pourrais dire que des miracles dans nos vies, on en a quelques-uns, pas beaucoup, mais on en a quelques-uns, que l'on a relu et que l'on a interprété rétrospectivement comme étant des signes de Dieu dans nos vies. Alors en conclusion, puisqu'on arrive à la conclusion, je vais essayer d'aller lentement. Lorsque Jésus guérit et qu'il fait des miracles, il agit au nom de son Père. Mais il agit au nom de son Père avec la puissance de l'Esprit. Il y a donc une dimension trinitaire dans le miracle. Jésus révèle le Père, donc il est le révélateur. Et en même temps, il est le révélé. Alors, pour le dire autrement, on peut dire il est le message, et en même temps, il est lui-même le contenu du message. Sa vie, sa mort et sa résurrection vont donner sens à l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui encore, il continue de nous guider dans les Écritures et en Église. Donc la révélation, on doit la comprendre comme l'auto-manifestation et l'auto-donation de Dieu. Il se manifeste lui-même et il se donne lui-même. Et il ne donne pas autre chose que lui-même. Donc par l'incarnation et donc le mystère pascal, la mort et la résurrection de Jésus, et par Jésus-Christ lui-même, il y a une continuité, on l'a dit, il n'y a pas de séparation, il y a une continuité de la révélation. La révélation, elle est attestée dans la première alliance, et elle se poursuit, et elle est attestée dans la nouvelle alliance. Donc les Écritures attestent la révélation aussi comme une expérience réelle. Ce n'est pas une expérience fictive, on n'est pas dans les légendes, contes et légendes. Il y a vraiment une expérience réelle, vécue par un peuple. Et si la révélation a trouvé son achèvement et son accomplissement en Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, elle continue aussi pour nous aujourd'hui dans l'Église. Donc on pourrait dire que c'est avec ce que nous sommes, avec notre propre histoire, que nous construisons aujourd'hui notre foi, à condition qu'elle s'inscrive pleinement dans l'Église du Christ. C'est pourquoi l'expérience que nous faisons aujourd'hui de la révélation, eh bien, elle est faite de multiples expériences. Des multiples expériences de la présence de Dieu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et puis, elle est faite aussi pour nous aujourd'hui, parfois, de l'expérience de son absence. Parce qu'il y a ça aussi, c'est une réalité. Sans ce dernier sentiment, c'est-à-dire le sentiment parfois de son absence, notre foi ne serait pas une foi responsable, acquise tout entière au Seigneur, c'est-à-dire une foi qui peut, aujourd'hui, se passer de signes, parce que c'est bien notre réalité aujourd'hui. Notre foi, c'est une foi qui accepte de se passer de signes. Nous n'avons plus les miracles de Jésus devant les yeux. Nous devons croire et nous devons faire un acte de croire au nom de la foi des prophètes et au nom de la foi des apôtres, qui ont engagé eux-mêmes leur vie jusqu'à mourir pour le Christ, et cela n'est pas rien, et que notre foi, si on a la foi, elle s'inscrit bien entendu dans la foi des apôtres. Qu'est-ce que ça me dit à moi aujourd'hui que des hommes sont allés jusqu'à mourir pour le Christ ? Non pas comme un sacrifice, mais comme acceptant de témoigner et acceptant d'être arrêté comme le Christ et de vivre cette passion comme le Christ. Donc, notre foi, ce n'est pas une foi qui serait ancrée sur rien. Vous voyez ? Donc, nous devons nous passer de signes et faire des relectures de nos vies, parce qu'il y a finalement des signes dans nos vies de cette présence et peut-être même de l'absence, qui demeure tout de même un signe. Bon, ben voilà, mes pauvres, vous avez beaucoup, beaucoup écrit.